bienvenue à vous qui nous retrouvez sur AWR, la Radio Mondiale Adventiste, pour votre nouveau programme de la Voix de l'Espérance en français, qui vous est proposé et présenté par Oscar Miani. C'est donc parti pour les 30 prochaines minutes ensemble. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, par internet ou aussi grâce à votre téléphone. D'ailleurs, je vous en rappelle tout de suite les numéros qui ne sont absolument pas surtaxés. Si vous voulez nous écouter depuis la France, vous composez sur votre téléphone le 01 80 14 44 77. Si vous voulez nous écouter en dehors de France, vous faites le 00 33 puis le 1 80 14 44 77. Et si c'est depuis les États-Unis, vous composez le 1 712 432 9978. Aujourd'hui, nous vous proposons votre rendez-vous santé avec le docteur Jean Lindsay. Ensuite, ce sera votre nouveau rendez-vous avec Alexis Masson, philosophe, pour l'émission Épistéo, et pour finir, un temps de réflexion avec le pasteur Pierre Péchou dans la chronique que vous connaissez bien maintenant. Il s'agit de Vers d'autres cieux. Mais tout de suite, pour commencer, voici Sentez-vous bien. Bienvenue à l'écoute de notre émission Sentez-vous bien. Nous sommes aujourd'hui en compagnie du docteur Jean Lindsay. Bonjour.
Bonjour Oscar.
Bienvenue à ce micro. Donc vous venez nous parler de santé. Et aujourd'hui, un sujet particulier, c'est la baisse du niveau de l'intelligence dans nos sociétés, docteur Jean Lindsay.
Oui, c'est un sujet réémergent. On en a déjà parlé.
Ça veut dire que c'est pas nouveau ?
Oh, c'est très récent. Très récent.
C'est très récent quand même.
Oui, mais ce sujet n'a émergé qu'il y a très peu de temps, il y a 2-3 ans. Hein.
Et alors, il y a des explications tangibles et scientifiques
à une nouvelle étude, dans une étude norvégienne qui est publiée à l'Académie des sciences américaines, donc dans une bonne revue, hein, confirme qu'effectivement, on a dans les pays développés... on a une baisse de l'intelligence. Ailleurs, on la mesure pas. Hein. Et donc, il faut pas en déduire que ça irait mieux ailleurs. En fait, la planète entière est soumise aux mêmes facteurs. Hein. C'est-à-dire, on pense que ce sont les métaux lourds, les perturbateurs endocriniens, et puis tout ce qui est pesticides, biocides, polluants atmosphériques générés par les moteurs à combustion interne et le chauffage. Quoi.
Et qui viennent interférer avec le niveau de l'intelligence.
Bah oui, parce que ça interfère avec le neurodéveloppement, avec la mise en place de la dentelle extraordinaire qu'est le cerveau. Pour un 3x rien, la mise en place se fait mal. L'archétype étant le syndrome d'alcoolisation fœtale. On sait maintenant exactement par où ça passe. On connaît les gènes qui sont modifiés et qui vont faire que les neurones du cortex, les neurones du cerveau ne vont pas aller au bon endroit. Et ça explique, alors là, avec les syndromes d'alcoolisation fœtale, on a des QI à 70. Hein, on a vraiment des intelligences très très modestes. Mais on sait exactement comment ça fonctionne. On a des spécialistes en France qui connaissent ça sur le bout des doigts.
Il y a la question de l'alcool, la question environnementale, oui. Comme vous nous l'avez expliqué, et la baisse de l'intelligence, quand on parle de baisse, ça veut dire quoi? Ça veut dire
le QI, sur lequel tout le monde s'est mis d'accord.
Et qui baisse de combien alors?
Voilà, tout de suite, là, dans leur étude, ils parlent de 0,33 points par an depuis 1975.
Par an? Oui, 0,33 points par an?
Oui.
C'est énorme.
De 75 à 91, oui, on a observé 0,33 points par an. Et on pense que ça s'aggrave, que ça s'accélère.
Donc, toute la nécessité
de détoxifier la société.
De mettre en place des politiques environnementales.
Hardies.
Comment est-ce que on peut mesurer justement?
L'étude norvégienne, elle a été retenue parce qu'ils ont étudié 237 000 individus. Ils ont comparé deux jeux de données. Le premier observe l'évolution du QI des aînés. Ils ont pris des familles dans lesquelles il y avait plusieurs enfants. Hein. Et donc, on observe bien la différence d'imprégnation par les toxiques, puisqu'on prend un aîné et un né plus tard. Donc, on voit la baisse.
Et donc, entre deux frères qui sont nés à quelques années d'intervalle, on voit déjà la baisse entre les deux.
De la génération née en 62 à celle née en 75. Il s'est passé quelque chose. Là, comme c'est dans une même famille, on élimine tous les autres facteurs génétiques, là, on a vraiment que l'influence de l'environnement. On lève même le problème des familles psychologiquement toxiques.
Cette étude nous dit encore d'autres choses ?
On avait, vous savez, ce qu'on appelait l'effet Flynn, on avait une augmentation du QI dans le monde entier grâce à l'amélioration des conditions de vie. Amélioration de la scolarisation, du niveau d'études, des conditions sanitaires, de la nature des tâches professionnelles.
Donc il y a une croissance jusqu'en 70 par là ?
Bah oui, c'est ça, on pense que c'est là que... il y a eu la cassure, quoi.
On peut rappeler qu'est-ce que c'est qu'une intelligence moyenne, le QI bah, moyen,
pas,
c'est...
C'est tout bête, c'est que la moyenne, c'est défini par 100. C'est une courbe de Gauss, donc le
100
QI
et la
moyen,
moyenne.
C'est 100.
C'est 100.
C'est 100, voilà. On considère que les gens sont très intelligents à partir de 130, 125, 130. Et de manière pratique, on considère que vous avez besoin d'être assisté socialement à partir de en dessous de 70, quoi.
Donc on comprend toute l'urgence de la mise en place de politiques environnementales, puisque sinon la société va à sa faillite.
Quand on a une baisse de la moyenne de l'intelligence, on a une grosse diminution des hauts potentiels qui tirent la société. Et à contrario, la société se trouve sommée, au nom de la solidarité, d'aider beaucoup plus de gens.
Donc évidemment, docteur Jean Lincey, pas de recette miracle pour...
Manger bio.
Ah quand même, vous avez quelques préconisations.
Ah bah évidemment. Si vous faites du vélo... Vous ne polluez pas l'atmosphère. On sait que l'atmosphère polluée est une cause de problèmes au niveau de la mise en place du cerveau. Ça, on en avait déjà parlé.
Plusieurs fois même. Donc pour réduire la pollution atmosphérique du vélo.
Du vélo. Maison isolée pour ne pas polluer par les chauffages inutiles de maison. Manger bio. Produire sa nourriture soi-même le plus possible. Parce que là, au moins, on sait ce qu'on mange. Et sans pesticides. Bon, ça, c'est à... tout le monde peut concourir à la dépollution, à la détoxification générale. Déjà ça, ce serait
une grande avancée.
Ce serait une grande avancée. Quoi. C'est pas grand chose finalement. Ce qui est très bizarre, c'est que ce qu'il faut faire n'est pas très compliqué.
Docteur Jean Lincey, merci beaucoup. C'était Sentez-vous bien. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine chronique. Merci. Au revoir.
Au revoir, Oscar.
Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission La Voix de l'Espérance qui vous est présentée par Oscar Miani et toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour. Juste avant, c'était Sentez-vous bien que vous retrouverez dès demain sur cette même antenne. Si vous souhaitez avoir notre grille des programmes ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, eh bien il vous suffit de nous adresser un mail à france@awr.org ou alors par courrier à IEBC, La Voix de l'Espérance, boîte postale 100, 77-193, Damary-les-Lys, Cedex. C'est maintenant l'heure de poursuivre avec votre émission Épistéo avec le philosophe Alexis Masson et nous terminerons avec le pasteur Pierre Péchou pour sa chronique Vers d'autres cieux.
Le Christ est-il A. une personne divine incarnée, B. un visionnaire d'une pensée de paix, ou C. une ombre qui n'a jamais existé ? L'historicité du Christ, c'est le thème que nous allons aborder dans cette émission Épistéo avec le philosophe Alexis Masson. Alors pour commencer, Jésus a-t-il réellement existé et quelles en sont les preuves ?
Mais alors tout d'abord, et ça paraît assez évident, il y a évidemment les sources chrétiennes qui affirment unanimement l'existence et la crucifixion du Christ. Les tout premiers écrits du Nouveau Testament datent environ au plus des années 50, autrement dit à peu près une vingtaine d'années après les faits. On peut se dire que c'est tout à fait normal dans la mesure où au début les disciples ne s'attendent pas à ce que la communauté chrétienne attende autant de temps le retour de Christ et donc ils commencent à se dire qu'il faudrait mémoriser les choses et les écrire. Donc ils attendent à peu près une vingtaine d'années avant d'écrire. Mais une vingtaine d'années, en fin de compte, c'est assez proche. Hein. Si on en revient, c'est comme pour nous, hein, la chute du mur de Berlin, la chute de l'URSS, tout cela pour nous, ça date à peu près d'il y a 30 ans. Donc d'à peu près il y a 20 ans. Donc ça fait relativement proche. On y décrit, dans ces textes, dans les sources chrétiennes, on y décrit le Christ comme étant un personnage relativement connu en Israël, mais connu sur notamment un certain point, c'est-à-dire qu'il a eu des rapports très conflictuels, des rapports conflictuels mémorables avec le clergé. Et cela, c'est un élément qui est important, parce que là, on sort directement de la source chrétienne en tant que telle. On peut aller demander, alors, au clergé, est-ce que c'est vrai que Jésus a existé? Vous devriez bien le savoir, puisque les textes disent qu'il y a une opposition très forte. Donc, les Juifs peuvent répondre oui ou non, est-ce qu'il a existé? Et lorsqu'on lit les sources juives, eh bien là, les sources juives reconnaissent unanimement l'existence de Jésus. On a par exemple, dans le Talmud, on a dans le texte du Sanhédrin 43a, le texte suivant qui dit « La tradition rapporte que la veille de Pâques, on a pendu Jésus parce qu'il a pratiqué la magie et égaré Israël. » C'est-à-dire que dans la mémoire d'Israël est restée la mémoire de ce personnage qu'était Jésus, bon, qu'il considère comme un hérétique, c'est normal, mais est restée cette mémoire. Si Jésus n'avait pas existé, il aurait suffi aux Juifs de dire « Mais il n'a jamais existé, votre personnage. Vos textes sont complètement faux. On n'a jamais entendu parler d'un Jésus. » Or là, les Juifs reconnaissent unanimement, oui, effectivement, Jésus a existé. Donc ça, c'est un premier point assez important quand même en faveur de l'existence de Jésus. Alors c'est vrai que de son vivant, c'était une question essentiellement qui concernait les Juifs, et Jésus était évidemment inconnu hors d'Israël, ce qui explique l'absence d'intérêt suscité chez les historiens contemporains. C'est vrai que Jésus n'a pas joué un rôle sur la scène internationale politique très important, c'était essentiellement en gros un réformateur au sein d'une petite religion minuscule sur toute l'Antiquité et sur tout le bassin méditerranéen. Il ne représente pas grand-chose en fin de compte pour l'histoire de l'époque. En revanche, le christianisme commence à prendre son essor après la mort de Jésus, et en l'an 64, par exemple, on a la communauté chrétienne de Rome qui va être accusée à tort par Néron d'avoir provoqué le grand incendie. Il y a ce fameux grand incendie où Rome brûle entièrement, et alors se pose la question, mais qui a fait cela? Plusieurs historiens nous rapportent cet incendie, et un historien qui s'appelle Tacite va nous affirmer que d'après les sources de l'époque, il semblerait que Néron a accusé les chrétiens. Et alors, il affirme ceci à propos du Christ, qu'il considère comme un personnage tout à fait historique. Il dit Christ qui, sous le principat de Tibère, avait été livré au supplice par le procurateur Ponce Pilate. Donc c'est ce qu'il affirme dans son livre qui s'appelle Les Annales, au livre 15, chapitre 44. Et donc aujourd'hui, pour l'ensemble de la communauté académique des historiens, l'existence de Jésus ne fait aucun doute. C'est surtout le fait, le point principal, c'est le fait que les adversaires même du christianisme ont reconnu l'existence du Christ.
Mais du coup, donc, sans rentrer dans les considérations, est-il Dieu, y a-t-il incarnation ou tout ça, donc restons simplement sur le personnage de Jésus-Christ. Mm-hmm. Quels sont les arguments de ceux qui pensent qu'il n'a jamais existé, qui nie son existence, que ça n'a été qu'une ombre, une invention? Qu'est-ce qu'ils avancent comme argument face à ça, du coup?
Alors, c'est ce qu'on appelle la thèse mythiste, c'est-à-dire que Jésus de Nazareth n'a pas existé, mais c'est plutôt un mythe, une création littéraire datant de l'époque. Alors, ce type d'hypothèse commence à naître à partir du XVIIIe siècle. C'est très intéressant, c'est assez tardif, c'est-à-dire que dans l'Antiquité, bizarrement, aucun adversaire du christianisme ne pense à cela. Il faut attendre le XVIIIe siècle. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Bien, c'est très simple, le Christ est une construction littéraire, et sur quoi se base cette construction littéraire? Eh bien, ou bien elle se base sur des prophéties, par exemple les prophéties de l'Ancien Testament, on essaye de coller au plus juste un personnage qui pourrait rassembler le plus de prophéties, ou alors sur des mythes antérieurs, les mythes du soleil, etc. On dit que Jésus ressemble à tel ou tel mythe ou telle religion antérieure, et puis il aurait synthétisé le tout. Alors, évidemment, ça ne suffit pas, parce que ce n'est pas parce qu'on dit que on retrouve certains éléments de Jésus qu'on avait dans l'ancien mythe, ou parce qu'on retrouve dans la vie de Jésus des prophéties qui sont réalisées, ça ne suffit pas pour dire que Jésus est un mythe. Il faut donc en plus remettre en cause son existence en adoptant une méthode qui est très spécifique, qu'on appelle la méthode hypercritique. Alors la méthode hypercritique, c'est quoi? C'est critiquer tout systématiquement, de telle sorte qu'il ne reste plus rien à la fin, et on supprime au maximum le maximum de données fondamentales. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est très simple. On s'appuie d'une part sur l'absence de sources contemporaines du Christ. Alors c'est vrai que le Christ n'a pas eu une importance fondamentale à l'époque, encore une fois, c'est un peu normal. On s'appuie également sur les faiblesses et les contradictions entre les témoignages dans le Nouveau Testament. On dit par exemple, entre les évangiles, il y a des contradictions. Tel évangile dit que c'est plutôt le matin qu'il a été sur la croix, l'autre évangile dit que c'est plutôt l'après-midi. Donc ça pose quelques petits problèmes. Et puis enfin, pour toutes les sources externes au christianisme, là c'est la thèse du complot généralisé, ce serait l'Église catholique qui aurait falsifié tous les documents de tous les historiens, de telle sorte que nous n'avons plus aucune source originale. Alors seulement, ça pose un certain nombre de problèmes, parce que, évidemment, encore une fois, les mythistes sont incapables d'expliquer pourquoi les adversaires, les juifs, pourquoi les juifs n'ont-ils pas dit que Jésus n'avait jamais existé? Ils l'ont vu de leurs yeux, ils ont toujours affirmé, oui, nous avons bien condamné Jésus pour un procès en hérésie, en fin de compte. Les juifs reconnaissent l'existence de Jésus. Et ça, les mythistes sont incapables de l'expliquer. Et puis, il y a quelque chose de plus grave. Leur méthodologie hyper critique permet même de se poser des questions sur l'existence de Napoléon. Par exemple, Jean-Baptiste Pérez a démontré que Napoléon était une construction littéraire à partir de mythes antérieurs. Dans Napoléon, on retrouve un peu des mythes antérieurs. Ah oui, pourquoi pas. Et puis, Richard Watley, qui était anglais, a démontré que, finalement, les sources sur lesquelles on se base pour dire que Napoléon existait, elles valent rien. Sur la même base des arguments qu'on utilise contre Jésus, eh bien, contre Napoléon, ça ne vaut rien non plus.
Et pourtant, il n'y a pas de doute bien sur l'existence de Napoléon. Enfin, je ne crois pas en tout cas. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ?
Ben, en gros, l'argument de Watley, son texte, qui est assez court mais assez riche, consiste à dire on va reprendre exactement les mêmes arguments qui sont utilisés contre Jésus, on va les calquer sur Napoléon et on va voir ce que ça donne. Et d'après lui, Napoléon, c'est quasiment certain, n'a pas existé. Alors comment il fait ? Tout d'abord, et ta réaction est tout à fait logique, tu me dis c'est une certitude, évidemment que Napoléon a existé. Eh bien, justement. Justement, c'est parce que c'est une certitude qu'il faut s'en méfier. Autrefois, est-ce qu'on n'était pas certain déjà que la Terre était plate ? Aujourd'hui, on croit que Jésus a existé, ça semble être une évidence, mais qu'est-ce qu'on en sait ? Justement, il faut interroger les évidences. Bon, évidemment, cela ne suffit pas. En plus de cela, on peut se demander sur quoi savons-nous ? Sur quoi nous basons-nous pour dire que Napoléon existait ? Alors tout d'abord, la majorité des gens qui pensent que Napoléon existait en sont convaincus et pourtant ne l'ont jamais vu. Moi, j'ai jamais vu Napoléon. Je sais pas si toi, t'as déjà vu Napoléon. Moi, j'ai jamais vu Napoléon. Pourtant, on est convaincu. Donc déjà, c'est un petit souci. Ensuite, si on croit que Napoléon existait, c'est parce qu'on se base sur des témoignages. Et on sait que les témoignages ne sont franchement pas infaillibles. Souvent, les témoins peuvent se tromper. Et de plus, les témoignages sont souvent rapportés par des journaux de l'époque. Et qui plus est, on sait que les journaux eux-mêmes commettent souvent des erreurs. Donc on commence à voir le problème du téléphone arabe. On démultiplie les chaînes de transmission d'information, et donc il y a un fort risque de transmission d'erreurs. Et donc le problème également, c'est que les articles de journaux sont bien souvent écrits par des correspondants qui sont déplacés dans les pays en question et dont l'identité est inconnue. Et puis le tout est publié dans des journaux, et on sait évidemment que les journaux commettent souvent des erreurs, et qui plus est, ils ont tout intérêt à falsifier l'information ou à grossir les faits. Pourquoi ? Ben parce que ça leur permet de vendre plus de journaux. Donc on ne sait jamais. On accuse la crédibilité en fait là des sources. Et puis Watley, qui est anglais, va même soupçonner le gouvernement anglais. Pourquoi ? Bien tout simplement parce que le gouvernement britannique avait tout intérêt à inventer une figure menaçante pour augmenter tout simplement les impôts au titre de la défense nationale. On a dit des choses qui n'étaient pas très différentes à propos de Roosevelt ou à propos de Bush récemment par rapport à la théorie selon laquelle les Américains auraient comploté pour détruire les World Trade Center. C'est exactement le même type de thèse d'hypercritique qu'on va appliquer contre Jésus. Enfin, une fois que Watley a complètement détruit la crédibilité des sources, eh bien il va s'attaquer à la vie même de Napoléon. Quand on voit sa vie et ses exploits, c'est tout simplement extraordinaire de telle sorte que c'est vraiment pas crédible. Attends, imaginez, un Corse devenir empereur de France, c'est vraiment n'importe quoi, premier élément. Puis ensuite, quand on regarde quand même les témoignages, ils se contredisent dans tous les sens, il y a aucune crédibilité. Quand on voit par exemple que certains disent que Napoléon a mené la charge sur le pont de Lodi, alors que d'autres disent que c'est Augereau. Il faudrait savoir, c'est ou bien l'un ou bien l'autre. Certains ont dit qu'il y avait jusqu'à 4 heures d'écart selon les témoins, à l'heure à laquelle la charge de la cavalerie française a commencé à Waterloo. Il faudrait savoir, c'est ou bien telle heure ou bien telle autre heure. Ça ne peut pas être à des heures différentes. Et puis enfin, Napoléon est décrit vraiment par les uns comme étant un génie, par les autres un monstre ou un fou. On a l'impression que c'est une multiplicité de personnages qu'on a compressé en un seul personnage. En fin de compte, ça ressemble à un mythe. Avec tous ces éléments-là, on peut vraiment douter de l'existence de Napoléon, c'est ce qu'affirme Richard Watley. Et ces arguments-là, je les rappelle, sont exactement les mêmes que ceux qui sont utilisés pour douter de l'existence de Jésus. Autrement dit, aujourd'hui, douter de l'existence de Jésus, il faut vraiment y aller.
Ici, c'est toujours la Radio Mondiale Adventiste. Vous êtes à l'écoute de La Voix de l'Espérance avec Oscar Miani au micro et toute l'équipe. Juste avant, c'était Episteo que vous retrouverez mercredi prochain ici. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur les ondes, sur Internet aussi, sur www.awr.org ou encore par téléphone. À présent, c'est avec le pasteur Pierre Péchou que nous poursuivons. Il vient de nous rejoindre dans le studio pour nous proposer une nouvelle réflexion dans sa chronique « Vers d'autres cieux ». Bienvenue à l'écoute de notre émission Vers d'autres cieux. Nous sommes en compagnie de Pierre Péchou. Bonjour.
Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour.
Vous êtes chroniqueur télé, radio, vous intervenez très régulièrement ici à ce micro et vous nous proposez à chaque fois un temps de réflexion durant cette émission à partir d'un texte que l'on trouve dans la Bible. Et aujourd'hui, vous nous proposez d'en prendre un qui se trouve dans la lettre aux Philippiens de l'apôtre Paul.
C'est un verset qui se trouve au chapitre 4. Ce sont même deux versets que je vais vous lire. Paul nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec des remerciements, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute pensée, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. »
Alors, quelle réflexion ce texte vous inspire, Pierre Pécheux ?
Une réflexion sur la prière, puisque c'est ce dont parle le texte, et l'occasion qui nous est donnée à travers cette lecture et nos réflexions à réfléchir sur ce qu'est la prière ou peut-être sur ce qu'elle n'est pas.
Alors, comme ça, a priori, ça paraît tellement simple et tellement facile. Mais comment est-ce qu'on peut concrètement passer à cette étape ?
Alors, je ne sais pas, Oscar, à quoi vous pensez quand vous dites que c'est facile, parce que le texte ne nous dit pas que Dieu répondra à nos prières. Le texte dit « Ne vous inquiétez de rien » et « Faites des demandes ». Et on finit avec « Vous serez en paix ». Et toutes vos pensées, votre cœur sera en communion avec Jésus. Entre les deux...
Indépendamment de la réponse.
Alors, c'est ce que je crois, et en fait, c'est le but du partage aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose dont je suis convaincu. Entre les deux, hein, c'est « Ne vous inquiétez de rien » et « Vous serez en paix », il y a en tout, alors en tout, bah, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, dans tous les domaines de votre vie, vous allez prier. Alors là, ça parle de supplication, c'est un terme un peu vieillot, mais on va dire une prière vraiment entière, on supplie, c'est-à-dire que pour des sujets importants, on est entièrement dans ce qu'on fait. Avec des remerciements, vous faites connaître à Dieu vos demandes. Là, se finit la prière. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur de partager. On entendra parfois des personnes dire... parce que j'ai prié Dieu et je n'ai pas été exaucé, des personnes dire « tu as peut-être manqué de foi, tu n'étais pas assez convaincu ». J'ai toujours été beaucoup gêné avec ce genre de réflexion. Peut-être que parfois c'est vrai, je ne sais pas, mais ce n'est pas la façon dont j'aborde ma relation à Dieu.
On n'est pas devant un Dieu bouton.
Oui, un distributeur automatique, si j'ai la bonne foi, Dieu répond. Il insiste beaucoup pour que nous le considérions comme un père. Quand Jésus apprend ses disciples à prier, ça commence comme ça, « Notre Père ». Moi, je suis père, j'ai ce privilège, pour moi c'est un privilège, j'ai deux enfants, elles n'ont jamais dû me prier pour être nourries, ni habillées, ni même avoir un cadeau. Parce que j'étais le père, j'étais heureux de les nourrir, de les habiller et de leur offrir des cadeaux, de leur faire plaisir. Alors si moi je suis capable de faire ça, je pense que Dieu aussi. Ça, c'est important pour moi. Pourquoi je dis que la prière finit avec la demande ? Parce que Dieu, en fait, veut vraiment que nous le rendions participant à notre vie. Il existe, il est là, il est, j'ai envie de dire presque, il est disponible. Et nous invite simplement à dire, voilà, je suis là, moi je voudrais vraiment être dans votre vie, dans votre dynamique de décision, de vie, etc. Et pour moi, la prière, c'est dire à Dieu, voilà, il y a cette situation, je te la présente. En te priant, je t'autorise à intervenir dans cette situation précise, mais je ne sais pas comment tu vas intervenir. Et vous savez, une prière finit par « Amen ». « Amen », c'est un terme qui veut dire qu'il soit fait de la façon dont moi j'ai demandé. Eh bien, quand vous dites « Amen », eh bien, vous avez autorisé Dieu à être participant à votre demande, mais la réponse, elle ne nous appartient pas.
Elle appartient à Dieu ?
Elle appartient à Dieu. On peut ne pas comprendre pourquoi Dieu ne répond pas.
Ou la réponse peut ne pas être celle qu'on attendait ?
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, Dieu répond toujours. Comme on dit souvent, il répond non, mais il répond. En répondant non, il a répondu. Et voilà, le verset 7 de Philippiens 4, c'est « La paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Christ ». Et elle est là, cette paix. C'est qu'on s'est déchargé d'une préoccupation, peut-être qui peut être très importante, d'un problème. Et on est en paix parce que Dieu existe, Dieu est vivant, Dieu nous aime, Dieu est un Père. Et parce que j'autorise Dieu à être participant à ce problème, puisque je le prie, je le remercie en même temps, c'est ce que disait le texte, et après ça ne m'appartient plus. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire à vivre. Comme je le dis très souvent, j'invite chaque auditeur à pouvoir être dans cette dynamique de prière. Pas croire que s'il manque de foi, il ne sera pas exaucé. Croire que s'il aime Dieu, Dieu l'aime. Et Dieu est heureux d'être participant à nos vies. Nous le rendons participant par nos prières. Après, la réponse lui appartient. Thank you.
au nom de l'amour.
Est-ce un nouveau film ?
Non, c'est le nouveau cours de l'IEBC.
IEBC ?
Oui, l'Institut de l'étude de la Bible par correspondance. Tu vas sur le site www.iebc.org et tu découvres tous les cours gratuits.
Tu as raison, au nom de l'amour, ça vaut la peine. Ce cours m'a vraiment interpellé. www.iebc.org.
Notre émission est maintenant terminée. C'était la Radio Mondiale Adventiste, la voix de l'espérance. Je vous donne rendez-vous dès demain à 4h30 sur les 6045 kHz bande des 49 mètres, à 8h sur les 15145 kHz bande des 19 mètres et à 20h sur les 9515 kHz bande des 31 mètres et tout ça bien sûr en temps universel. Je vous souhaite une très bonne continuation. Que Dieu vous bénisse. À demain. Thank you.